Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Si la lecture de la Bible et des historiens grecs a entretenu longtemps le mythe du despotisme oriental dans l'imaginaire européen, c'est au XIXe siècle que le savoir des archéologues a commencé à entrouvrir d'autres visions de l'antique empire perse. Mais cette vision savante s'accompagna d'un pillage formidable des sites anciens dont les musées européens et américains profitèrent largement. Pierre Briand, titulaire de la chaire Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire d'Alexandre, fait revivre ici des textes d'horizons divers qui, assemblés, constituent le vaste corpus qui forme les strates paradoxales de notre relation au monde achéménide. Pour cela, il explore plusieurs voies d'approche de ce corpus. La consultation minutieuse des rapports de fouilles des archéologues est l'une de ces voies. Pierre Briand l'a parcouru dans le cours que nous avons suivi hier via l'examen des textes laissés par Ernst Herzfeld, qui fut aussi le premier archéologue à fouiller systématiquement Persépolis. Il avait eu certes quelques prédécesseurs, mais il était lui mandaté par le gouvernement du Fars et donc par les autorités iraniennes. Ses travaux permettent, expliquait Pierre Briand, non seulement de faire bien entendu des découvertes de toute première importance, mais aussi de connaître l'état du site tel qu'il était à son arrivée dans la première moitié du XXe siècle. Une autre des voies possibles, explorée par Pierre Briand, pour avoir une idée de ce corpus qui a fondé notre regard et nos savoirs sur le monde achéménide, est l'examen des travaux de synthèse qui, à partir du XIXe siècle, permettait de connaître les voyages antérieurs et de faire le point sur le savoir d'une époque. Pour des raisons de politique coloniale et donc d'accès à ces pays lointains, c'est dans l'Empire britannique que les savants s'attelèrent massivement à ces travaux. Et, même si la France, et donc le musée du Louvre, ne fut pas en reste, grâce à des archéologues de génie comme le couple Dieu la Foi, la deuxième moitié du XIXe siècle a fourni nombre d'archéologues et d'aventuriers anglais de grand talent qui permirent d'enrichir considérablement le fonds du British Museum. Pierre Briand nous a longuement parlé, par exemple, de George Curzon, qui fut ministre des Affaires étrangères en 1895, puis en 1919, mais aussi vice-roi des Indes jusqu'en 1905. Curzon publia « La question perse ». Son livre est certes celui d'un politique, mais il s'est également intéressé aux grands sites sur lesquels il apporta maintes informations. Écoutez. Marie-Christine Barrault lit Pierre Loti.
Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses ? Prenne son parti de cheminer lentement à mes côtés, par étapes, ainsi qu'au Moyen-Âge. Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses ? Consente au danger des chevauchés, par les sentiers mauvais où les bêtes tombent, et à la promiscuité des caravansérails, où l'on dort entassé dans une niche de terre battue, parmi les mouches et la vermine. Qui veut venir avec moi voir apparaître dans sa triste oasis, au milieu de ses champs de pavots blancs et de ses jardins de roses roses, la vieille ville de ruines et de mystères, avec tous ses dômes bleus, tous ses minarets bleus d'un inaltérable émail ? qui veut venir avec moi voir Ispahan sous le beau ciel de mai, se prépare à de longues marches, au brûlant soleil, dans le vent âpre et froid des altitudes extrêmes, à travers ces plateaux d'Asie les plus élevés et les plus vastes du monde, qui furent le berceau des humanités mais sont devenus aujourd'hui des déserts. Nous passerons devant les fantômes de palais, tout en silex couleur de souris, dont le grain est plus durable et plus fin que celui des marbres. Là, jadis, habitaient les maîtres de la terre. Et aux abords veillent depuis plus de 2000 ans des colosses à grandes ailes qui ont la forme d'un taureau, le visage d'un homme et la tiare d'un roi. Nous passerons, mais alentour, il n'y aura rien que le silence infini des foins en fleurs et des orges vertes. Qui veut venir avec moi voir la saison des roses à Ispahan s'attend à d'interminables plaines, aussi haut monté que les sommets des Alpes, tapissé d'herbes rares et d'étranges fleurettes pâles, où à peine de loin en loin surgira quelques villages en terre d'un gris tourterelle, avec sa petite mosquée croulante, au dôme plus adorablement bleu qu'une turquoise. Qui veut me suivre se résigne à beaucoup de jours passés dans les solitudes, dans la monotonie et les mirages.
Curzon a établi des listes très précises de voyageurs qui ont visité la Perse. Il en compte 12 entre 1300 et 1500, 15 entre 1500 et 1600, 41 entre 1600 et 1700, 31 entre 1700 et 1800 et 182 entre 1800 et 1890. Donc on assiste, pour des raisons sur lesquelles je devrais revenir si j'en ai le temps un jour, cette année, donc ce chiffre illustre très clairement ce qu'est la, comment dirais-je, ce que sont les intérêts britanniques en Perse au XIXe siècle. Et donc il conclut sur ces voyageurs en disant que selon lui, les principaux, ceux qui ont apporté le plus de neuf sont Chardin, Tavernier, Hanway, qui est mieux, mal connu, Malcolm, dont j'ai parlé, Sir John Malcolm, Morier, Ouseley, Bayer Fraser et Rawlinson. Et parmi les trois principaux Anglais qui ont parlé de la Perse, Morier, Ouseley et Fraser, ils mettent en avant le premier, alors je vais le prononcer à la française, hein, Morier, mais qui était connu non seulement par son voyage en Perse, mais qui était beaucoup plus connu en Europe, par son roman oriental, Les aventures de Haji Baba, qui ont été traduits dans toutes les langues de la Terre et qui ont un énorme succès. L'histoire, c'est qu'un Anglais qui se trouve à Tokat, au nord de la Turquie, Tokat se situe sur la grande route qui va de l'ouest à l'est de la Turquie vers le nord, à Tokat circule également, séjourne également le persan des lettres persanes, il envoie des lettres depuis Tokat d'ailleurs. Et à Tokat, ce jeune, cet Anglais qui est là de passage, est appelé au chevet d'un vieillard, un persan, qui s'appelle Haji Baba, et qui, en échange de ce que l'Anglais pourrait apporter de soulagement physique, lui promet de raconter son histoire. Et donc, le locuteur, le Morier, va raconter l'histoire attribuée à un nommé Haji Baba. Bien. Bah, par ailleurs, donc, des manuels, si je puis dire, paraissent dans la deuxième partie du XIXe siècle qui, au fond, vulgarisent dans le grand public, chez l'étudiant, mais à la fin, chez l'étudiant, dans le grand public dit cultivé, au fond, ce qui, maintenant, est considéré comme un bien commun de la science, en particulier sur le site du Moyen-Orient. C'est le livre de Maspero, c'est le livre de Perrault Chipier, qui est plus spécialiste de l'histoire de l'art, et un peu avant, les cinq grandes monarchies de Rawlinson. Et on trouve là à la fois des développements écrits, bien entendu, et de nombreuses reproductions qui, pour l'essentiel, sont reprises à des voyageurs qui ont voyagé au cours du XVIIIe et surtout au cours du XIXe siècle, et qui ont produit pour certains donc de très belles restaurations, enfin très belles, dont celle de Dieu la foi, donc le tombeau de Cyrus environné d'une colonnade qui n'a sûrement jamais existé. Bien. Alors il me reste maintenant à introduire deux instruments de travail. Le premier est un ouvrage récent qui est devenu absolument indispensable, sans lequel d'ailleurs je n'aurais pas pu préparer ce cours avec autant de minutie. C'est l'ouvrage de notre collègue italien Antonio Invernizzi, intitulé « Il genio vagante, trit repris à un voyage, un italien ». Invernizzi a rassemblé dans ce volume énorme, hein, qui a un gros handicap, c'est qu'il est très lourd. C'est un folio qui fait plus de 600 pages et qui comprend tout, à la fois les textes, il a repris tous les textes des voyageurs qui ont été dans l'Orient ancien au XVIIIe siècle. Il commence avant le XVIIIe, mais disons que l'essentiel porte sur le XVIIIe siècle. Et il a aussi donné de très nombreuses planches photographiques de reproduction, si vous voulez, de dessins voyageurs dont beaucoup sont très difficilement trouvables, même si aujourd'hui, depuis quelques années, on peut les trouver les récits de voyageurs sur Internet assez aisément. Mais ces récits de voyageurs ne sont pas toujours accompagnés des planches de dessin qui, évidemment, les accompagnent dans une édition originale. Et là, il a rassemblé tous ces dessins et tous les textes. Donc, c'est un ouvrage multilingue, car lorsqu'il cite un voyageur allemand, il le cite en allemand, en anglais, en français, en italien, en espagnol, en portugais. Donc, c'est un ouvrage multilingue, ce qui fait que Le handicap, c'est qu'il n'y a pas d'index qui rend les choses un tout petit peu plus difficiles à consulter, mais c'est tout de même. La couverture que vous avez sous les yeux est d'ailleurs extrêmement intéressante, car c'est un dessin qui n'est pas complètement inédit, mais dont j'en parlerai plus tard, de Grelot au XVIIe siècle, et qui est un dessinateur dont les dessins restent encore inédits, puisque la collection est dans est conservée dans une bibliothèque de l'université de Minneapolis. Je ne sais pas pourquoi, dans l'université de Minneapolis, par quel circuit tout cela est arrivé ici, mais on a ici un dessin extrêmement intéressant dont je reparlerai. Bien, alors le sous-titre définit plus précisément le champ embrassé par le livre. Je cite, je traduis bien sûr, Babylone, Ctésiphon, Persépolis, dans les récits de voyage et les témoignages des XIIe, XVIIIe siècles. Donc, c'est non seulement sur la Perse, mais également sur la Babylonie et la Mésopotamie, avec Babylone et Ctésiphon. Evanizzi est un excellent spécialiste, un archéologue, qui travaille en particulier dans l'Iran parthe, et qui a également travaillé très longtemps, diriger les fouilles de celle-ci du Tigre. Il entend donc rappeler les témoignages sur les lieux, je cite son introduction, les témoignages sur les lieux où se sont opérés, dit-il, les rapports entre Orient et Occident, et plus particulièrement, il écrit, plus particulièrement entre la culture européenne et la réalité archéologique orientale. C'est une histoire, insiste-t-il, très différente de celle de la rencontre entre l'Europe et la civilisation égyptienne, puisque l'Égypte est restée constamment sous les yeux des observateurs européens. Il n'y a jamais eu de longues lacunes de plusieurs siècles pendant lesquelles l'Égypte est restée à l'écart. L'Égypte a toujours été parcourue par des voyageurs, et pas seulement par des voyageurs. Donc la découverte, dit-il, des grands sites et le début des grandes fouilles au Proche-Orient, au milieu du XIXe, pour Ninive, Khorsabad, Nimroud, donc la civilisation assyrienne au nord de la Mésopotamie, Layard, dont j'ai cité le nom la dernière fois, mais aussi Suse, dont je viens de rappeler, au milieu du XIXe. Donc ces mises en chantier, si je puis dire, viennent dans la continuité des voyages européens. Et ces voyages, ces récits de voyage ont créé de nombreuses discussions en Europe, y compris parmi ceux qui ne sont jamais venus sur le site. En particulier, ce sont les, comme il le dit, ce sont les voyageurs, les premiers voyageurs qui ont rapporté les premiers exemplaires de ce qu'on a appelé ultérieurement l'écriture cunéiforme, mais qu'à ce moment-là, on va appeler pendant très longtemps l'écriture persépolitaine, puisque les premiers monuments d'écriture cunéiforme ont été copiés à Persépolis par des voyageurs en Perse. Et assez curieusement, eh bien, la découverte de la clé de l'écriture cunéiforme ne va pas permettre à l'histoire perse de se développer, puisque cette écriture cunéiforme va être désormais étudiée surtout sur des monuments et des documents qui proviennent de Babylonie et non pas des documents qui proviennent de Perse. Alors, ce livre, il y a 100 pages de planches photos, donc 294 figures qui viennent de tous les voyageurs qui sont cités dans le volume. Donc, on a là une masse de connaissances considérables. On peut dire que le volume est exhaustif, à une exception près, mais il ne pouvait pas le savoir. Le volume est paru en 2005, et 2 ans plus tard, je pense, oui. Une autre étude est parue qui date de 1700, enfin un manuscrit sur Persépolis qui date de 1773 a été publié en 2007, je crois, 2009, je ne sais plus, par une chercheuse italienne. C'est un manuscrit d'un homme dont j'ai souvent parlé dans les cours précédents, dans les années précédentes. C'est le baron de Sainte-Croix, éminent spécialiste de l'histoire d'Alexandre au XVIIIe siècle, et qui avait écrit un manuscrit sur les ruines de Persépolis, ce qu'il fallait en penser. Et, bien entendu, Nervenesi n'a pas pu en tenir compte. Il faut donc l'ajouter à la collection qu'il a rassemblée de manière dont on peut dire qu'elle était exhaustive. Alors, chaque auteur est présenté avec beaucoup de soin. Toutes les éditions sont données avec une précision tout à fait remarquable, avec parfois des références à des bibliothèques italienne, d'ailleurs, la plupart du temps, et avec également les principales études qui ont été publiées sur le personnage dont vous reconnaissez en bas, par exemple, l'édition de Hierasimos, dont j'ai parlé, et le bouquin de Van der Kreuz que j'ai présenté brièvement au début. Les principaux auteurs qui vont être cités dans la suite ici dans du cours, et qui sont les principaux auteurs qui ont à la fois décrit et dessiné les sites. Alors l'un des intérêts de l'ouvrage de Nervenesi, c'est qu'il a introduit aussi ceux qu'il appelle d'une manière un petit peu d'ailleurs vague les auteurs arabes, puisque ce sont en général des auteurs persans ou arabo-persans. Et donc à la fois des géographes, des voyageurs, et puis des auteurs comme Idrisi, par exemple, et puis d'autres auteurs dont les œuvres ont d'ailleurs été connues, ont commencé d'être connues en Europe, en particulier à partir du XVIIe siècle, et traduits au XVIIe siècle. On y trouve donc également chez ces auteurs arabo-persans, en général médiévaux. On y trouve des descriptions de villes et de sites comme Hamadan, Suse, Ninive, Shiraz. Et par exemple, dans les prairies d'or de l'auteur arabo-persan Massoudi, on trouve une description de ce qu'on appellera Persépolis, un des Pirées, hôtel du feu, voilà, les plus vénérés des Guèbres, et celui d'Ishtar dans le Fars. C'était primitivement un temple consacré aux idoles. La reine Omeyye, fils de Bahman, fils d'Isfandiar, le convertit en temple du feu après avoir détruit les idoles. Plus tard, le feu fut enlevé et l'édifice tomba en ruine. Aujourd'hui, on le considère, donc nous sommes au début du XIe siècle, aujourd'hui on le considère comme l'ancienne mosquée de Salomon, fils de David. On le nomme à cause de cela Majid Sulaiman, la mosquée de Salomon. Je l'ai visité. Il est à un parasange environ de la ville d'Ishtar, parasange, une vieille unité de mesure au qui remonte aux Achéménides. C'est un monument admirable et un temple imposant. J'y ai remarqué des piliers formés de blocs d'une dimension étonnante et surmontés de figures singulières de chevaux et d'autres animaux, aussi remarquables par leur stature que par leur forme. Autour de l'édifice règne un vaste retranchement et une muraille en blocs massifs, laquelle est couverte de bas-reliefs d'une exécution très habile. Les habitants du voisinage y voient les images des prophètes. Ces ruines sont situées au pied d'une montagne où le vent souffle nuit et jour avec impétuosité. C'est ce qui fait dire aux musulmans de l'endroit que les vents ont été emprisonnés en ce lieu par Salomon. Donc nous avons ici une description qui est, que l'on peut juger tout à fait excellente si on sait de quoi il parle, parce qu'en réalité, il n'y a rien de précis n'est donné. C'est un cadre général, on parle d'une muraille, de reliefs qui sont très bellement exécutés, de piliers hauts, etc. Mais on n'en dit pas beaucoup plus. Mais disons qu'on a ici une des premières descriptions de ce que nous appelons, nous, Persépolis, par un auteur arabo-persan. Et en cela, c'est un texte qui peut être intéressant, qui d'ailleurs était connu en Europe. Alors, ce texte et la collection que donne également Invernessy permet de rappeler une chose qui est intéressante, et de se poser une question sur l'image que les Persans de l'époque des voyageurs, par exemple, ou de l'époque des voyageurs, et même des premiers archéologues, que les Persans de l'époque médiévale et moderne, donc de l'époque islamique, se faisaient de ces ruines qu'ils avaient sous les yeux. En particulier Persépolis, mais ils connaissaient aussi Nakhchemoustam, puisque tous ces sites étaient affectés de toponymes qui venaient non pas d'Antiquité, mais des légendes iraniennes. Nakhchemoustam, c'est le portrait de Roustam. Roustam étant le grand héros des légendes iraniennes, l'Hercule persan, comme on dit parfois. Et Tchelminar veut dire 40 colonnes. Ou bien on parle aussi de Taxi-Jamshid, le trône de Jamshid étant le premier homme de la légende iranienne de l'histoire de l'humanité. Donc, ce qui est certain, c'est que les Iraniens, les Persans, de toutes les époques, n'ont jamais oublié le site de Persépolis. Mais qu'est-ce qu'ils y voyaient? Ça, c'est une autre affaire. Alors, on a, pour répondre partiellement à cette question, on dispose de très nombreuses inscriptions qui ont été relevées par les voyageurs en toute langue, donc en arabe, en pelvi, en grec, en cunéiforme évidemment, ce qu'ils appellent le syriaque, c'est le pelvi. Et bien, alors ces inscriptions ont souvent déjà été traduites par Niebuhr, et traduite par d'autres auteurs dont je vais parler. Et je voudrais partir d'une étude tout à fait intéressante que l'on a consacrée à un auteur qui a écrit des choses tout à fait intéressantes sur l'histoire de l'Iran, qui est lui-même d'origine iranienne, qui s'appelle Manikian Shirvani, dans un article qui s'appelle « Le royaume de Salomon, les inscriptions persanes de sites achéménides », qui est paru en 1971. Donc, Manikian Shirvani souligne que, je cite, « Contrairement à une image assez répandue en Occident, le site de Persépolis, entre autres, n'est jamais tombé dans un profond oubli dont il serait issu grâce à la science européenne. En réalité, poursuit-il, il ne s'est pas écoulé un siècle depuis l'époque bouyide, nous sommes entre le Xe et XIe siècle de notre ère, depuis l'époque bouyide où des voyageurs royaux n'aient laissé une marque de leur passage. Leurs inscriptions, calligraphiées souvent par de grands maîtres, font de Persépolis, je cite, un véritable mémorial islamique qui livre une série de témoignages exceptionnels par leur teneur sur les réflexions qu'ont inspirées aux Iraniens musulmans la vue des bas-reliefs sculptés. Chardin avait déjà, alors qu'est-ce qu'il en est exactement? On voit bien la thèse de Manikian Shirvani qui est que les Iraniens connaissaient Persépolis avant que les voyageurs européens y arrivent. Bon. et que les Iraniens, les Persans, ont toujours voyagé, y compris les rois, ont voyagé à Persépolis. Alors Chardin s'interrogeait déjà dans les termes suivants. Il nous reste à parler des inscriptions de cet ancien monument qui sont en grand nombre et en divers caractères. Il y a beaucoup d'apparences que les divers peuples qui ont conquis ce pays-là ont voulu graver sur les marbres de ce magnifique bâtiment la date de leurs exploits et tout ce qui pouvait en transmettre la connaissance à la postérité, comme sur un monument que le temps ne pouvait détruire. C'est une réflexion tout à fait juste d'ailleurs. On y voit du grec, de l'ancien syriaque et de l'ancien arabe, qui sont les seuls caractères communs aux diverses nations qui ont autrefois conquis la province de Perse. L'ancien syriaque aux Parthes et aux Mèdes, le grec aux Grecs avant et après la venue de Jésus-Christ, l'ancien arabe aux Arabes et aux Tartares. Pour ce qui est des Romains, ils n'ont jamais pénétré jusqu'à Persépolis. Je donne donc des ectypes des reproductions, si vous voulez, de tous ces caractères dans les figures suivantes, donc c'est ceci là. L'un est proprement le caractère de cet édifice et l'écriture qui était commune en usage du temps de sa construction. C'est ce que vous avez ici, l'écriture cunéiforme. Puis il propose quelques réflexions sur l'écriture que nous appelons cunéiforme. Je ne vais pas tout lire, mais c'est intéressant parce que c'est une des premières réflexions sur ce que peut être cette écriture. La plupart des inscriptions sont de ce caractère, et pour celles qui n'en sont pas, vous les trouverez toutes en caractères si mal formés et taillés qu'on n'a pas de peine à reconnaître qu'ils sont d'un autre temps et d'une autre main. En un mot, ces méchantes lettres ne sont que des traits effleurés et tremblants au lieu que cet ancien caractère est admirablement bien formé. Alors après, il s'interroge dans un long développement que je ne peux pas lire en entier, ce serait trop long, sur les différents signes, s'y croit, les différents signes de l'écriture cunéiforme. L'une de ces figures, dit-il, les figures de qui composent l'écriture cunéiforme, ressemble à une équerre. Mais on ne saurait proprement dire à quoi l'autre ressemble, si ce n'est qu'on veuille qu'il ait du rapport à la figure pyramidale. L'une et l'autre figure, donc en équerre ou en pyramide, l'une et l'autre figure n'est pas toujours posée d'un même sens comme nos lettres. La première est posée de deux sens, est en droite, elle a la pointe ou angulaire ou en bas ou en travers. La seconde est posée de six sens, dès lors qu'elle est perpendiculaire, elle a la pointe en haut ou la pointe en bas, etc. etc. Les lettres composent, donc il essaie de définir comment isoler des lettres qui peuvent former des mots. Donc lui, il est incapable, mais en tant qu'observateur, il dessine les choses, et donc il voit les choses de différentes formes, et il s'interroge. Ces figures paraissent jointes ou combinées en tant de diverses sortes qu'on peut compter plus de 50 lettres. Donc il a distingué 50 lettres. Des gens s'étonnent que deux figures puissent faire tant de lettres, mais pour moi, je ne vois pas de quoi s'étonner si fort, puisque les lettres de notre alphabet, qui sont au nombre de 23, ne sont pourtant composées que de deux figures, la droite et la courbe. C'est-à-dire qu'avec un C ou avec un I, on fait toutes les lettres qui composent nos mots. Donc, vous voyez qu'il réfléchit beaucoup, il discute ce qu'avait écrit auparavant l'ambassadeur espagnol Figueroa. Donc il réfléchit déjà, c'est une des premières réflexions sur l'écriture cunéiforme. Niebuhr, à la fin, dans les années 70 du XVIIIe siècle, poursuivra la réflexion. Et ensuite, bien sûr, en Europe, énormément de savants, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, vont proposer des solutions jusqu'au moment où, en 1830, à partir de la thèse de Beistoun, Rawlinson proposera la clé qui donne accès au texte cunéiforme. Alors, cela étant, il est vrai que plusieurs inscriptions qui sont portées sur différents bâtiments anciens de Persépolis attestent que des princes iraniens, au cours des âges, sont venus là et ont fait une halte et ont voulu en laisser le souvenir gravé dans la pierre, en persan, en arabe ou en pelvi. Et ceci dès l'époque pré-islamique. Dans l'année 311 de notre ère, donc nous sommes à peine un siècle à peu près après la création de la dynastie sassanide, 90 ans plus exactement d'ailleurs, soit 8 siècles après la fondation de la ville par Darius Ier, le roi sassanide Shapur II, fils d'Ormaz II, et certains de ses dignitaires laissent des inscriptions au mois de Spandarma, dans la seconde année de Sa Majesté zoroastrienne, Shapur, le roi des rois d'Iran et d'Aniran, aux origines divines. À ce moment où Shapur, le roi des Sakas, roi de l'Hindoustan, Sakistan et Touran, jusqu'au rivage de la mer, voyagea sur cette route, la route d'Ishtar, qui était la capitale, une résidence des Sassanides qui se trouve à quelques kilomètres de Persépolis proprement, la route d'Ishtar au Sakistan, et aimablement vint ici à Sadjtoun. Il prit son repas dans ce bâtiment, donc dans le palais de Darius, et il organisa une grande fête. Il accomplit différents rituels divins. Il pria pour son père et pour ses ancêtres. Il pria pour Shapur, le roi des rois. Il pria pour son âme. Il pria aussi pour celui qui fit construire ce bâtiment. Alors, 11 ans plus tard, il envoie un de ses subordonnés, qui porte le nom de Séleucos, nom grec, inspecter l'inscription qu'il avait fait graver. Et donc, il montre ainsi que, d'une certaine manière, il entend s'insérer, lui, Shapur, dans une longue, longue durée de l'histoire iranienne. Mais lorsque Shapur dit qu'il bénit, il prie pour celui qui fit construire ce bâtiment, il n'a aucune idée de qui a construit ce bâtiment, ni quand il a été construit. Tout aussi bien ne nomme-t-il personne. Bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'appellation qu'il utilise pour désigner Persépolis. Pourquoi je l'ai pas mis ? Ah si, Sadjtoun. Sadjtoun, soit les 100 colonnes. À la même époque, dans les sources classiques, dans les sources latines, Amien Marcellin, lui, parle de Persépolis. Il n'en connaît pas plus que d'autres sur Persépolis, si ce n'est qu'il a lu les auteurs grecs et latins. Mais les auteurs grecs ou latins, au même moment où le roi Sassanide vient à Persépolis, eux connaissent le nom traditionnel des Persépolis, même si Persépolis est une nomination grecque, les Perses parlant de Parsa. Mais en revanche, les Sassanides, les Perses de l'époque Sassanide, n'ont aucune idée de l'existence même d'un toponyme qui, à un moment donné, aurait été celui de Parsa, qui est le toponyme perse. Et c'est la raison pour laquelle, quelques siècles plus tard, je le disais tout à l'heure, lorsque les premiers voyageurs européens arrivent à Persépolis, on ne désigne pas du tout Persépolis sous ce nom, on utilise le terme de le toponyme Tchelmenar, les 40 piliers, parce que c'est un nom, c'est un chiffre qui ne fait pas référence à un nombre exact de 40, c'est un chiffre parfait, 40 colonnes, les 40 colonnes, dont la construction, le toponyme est construit évidemment sur la même logique que Sadjtoun en iranien, en persan, les 100 piliers. Donc dans les deux cas, les Persans ont recouru à une formule toponymique descriptive pour désigner un site dont l'histoire leur échappait complètement. On utilisait, je disais tout à l'heure aussi, le nom de le trône ou la maison de Salomon, qui rappelle le nom de la tombe de la mère de Salomon qui était donnée à cette époque-là aussi à ce que nous appelons la tombe de Cyrus. Et tous ces toponymes forment un ensemble de noms d'origine, on va dire biblique, plutôt salomonique, qui sont très fréquents dans la toponymie de la Perse. Enfin, Chardin, lui, dit que certains de ses guides persans dénommaient le site Tarshtedara, le trône de Dara, le trône de Darius, sans qu'on sache évidemment à quel Darius il s'agissait. En fait, il s'agit non pas de Darius, mais de Dara, c'est-à-dire l'un des rois de la dynastie Kayanide, qui est exalté et raconté, en particulier par Ferdoussi, dans le Livre des Rois. Donc, je dirais que, d'une certaine manière, ces inscriptions, toutes les inscriptions, je vais en dire d'autres mots, illustrent plutôt l'oubli de l'histoire iranienne, enfin, elles illustrent à la fois la volonté, la certitude que l'histoire iranienne est une histoire très très longue, puisqu'elle se déroule sur 4 trimillénaires, et que le premier homme est Jamshid. Donc ils savent bien qu'ils s'inscrivent dans une très longue histoire qui est une histoire qui est un mythe de fondation de la nation iranienne. Mais ils ne savent, c'est un temps qui n'est pas un temps réel, c'est un temps purement légendaire. Et donc la plupart des inscriptions qu'on va trouver sur les murs de Persépolis sont des inscriptions qui sont essentiellement ce que nous trouvons chez les voyageurs romantiques européens, c'est-à-dire les méditations sur la vie, sur la mort, sur la méditation sur les ruines, qu'on a trouvé chez Volney dans son voyage en Syrie ou dans les ruines, ou encore Chateaubriand, chez Lamartine, ou encore chez Pierre Loti, qui visite Persépolis. Voici quelques exemples de ces inscriptions. En 1335, à qui appartient aujourd'hui le royaume ? À Dieu l'unique, le dominateur. Où sont les Khosrows ? Les dynastes de ce que nous appelons l'époque sassanide. Où sont les Khosrows, les tyrans des premiers temps ? Ils ont enfoui leurs trésors, ceux-ci ne sont pas restés là, ni ceux-là. En 1423, un descendant de Tamerlan vient ici et il réfléchit lui aussi sur sa propre destinée. Il fait graver des inscriptions. Notre attention, en gravant ces caractères, a été qu'il demeurasse après nous, car hélas, je vois que notre existence n'est pas d'une longue durée. Peut-être un jour, quelque âme pieuse, touchée d'un sentiment de compassion, adressera en faveur des pauvres des prières aux tout-puissants. Ou bien encore, cette autre inscription en arabe, « Où sont ces rois qui ont joui de la souveraine puissance jusqu'au moment où l'échanson de la mort leur a fait avaler la coupe funeste ? Combien de villes ont été bâties sur la surface de la terre qui ont été détruites et dont les habitants sont dans le séjour de la mort ?» Bien, on pourrait citer et nombreux rois, et tout à fait clair que nous sommes ici dans le temps de la légende iranienne, et non pas dans ces dynastes de l'époque médiévale ne se situent pas dans un temps historique qui serait par définition le nôtre, ou le temps de l'historien. Donc, finalement, lorsque les voyageurs arrivent à Persépolis, et nous-mêmes aujourd'hui n'avons que très peu à tirer de ces inscriptions qui parsèment les murs de Persépolis. J'entends l'inscription post-achéménide. Et lorsque les voyageurs arrivent sur les sites, ce sont plutôt les sources classiques qu'ils invoquent. Par exemple, Chardin qui arrive à Persépolis, qui décrit la route qu'il a suivie en disant « C'est certainement la route que tint Alexandre le Grand en venant de la Susiane par Cachan, car il n'y a point d'autre. » Il écrit « Il n'y a rien qui soit plus facile de connaître dans les descriptions d'Arien, de Quincurse et de Diodore de Sicile que la situation de Persépolis, et c'est un fort grand plaisir que de parcourir ce pays, les anciens auteurs, à la main. » Ensuite, donc, il décrit le pays en rapportant ce qu'il voit à ce qu'il a lu dans les auteurs classiques. D'autres voyageurs, au contraire, mais pour des raisons qui ne sont pas toujours très claires, aiment à citer, à refaire l'histoire de la Perse en utilisant des histoires qui ont été écrites en persan. Et l'une des principales, qui date du XVe siècle, est celle du dénommé, enfin je ne sais pas comment on prononce, il y a plusieurs prononciations possibles, qui est écrit Mirwand en iranien, et qui a écrit une histoire des premiers rois de Perse, depuis Cayomars. Cayomars, c'est le premier homme qui est cité, le premier de la dynastie Peshandian, jusqu'à la conquête de l'Iran par Alexandre le Grand. C'est une traduction anglaise, mais il y a eu des traductions françaises, puisque Sylvestre de Sacy, dont je reparlerai, a donné une traduction française d'une partie de l'ouvrage de Mirwan. Par exemple, comment dirais-je, Sir John Malcolm, dans son History of Persia, utilise uniquement ces traditions persanes, mais aussi, je pense, sont pour des raisons diplomatiques, sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir. Alors, pour constituer un corpus, il y a une dernière source d'information. C'est que, pour savoir quels voyageurs sont venus à Persépolis, eh bien, beaucoup d'entre eux ont fait savoir qu'ils étaient venus à Persépolis en écrivant leur nom sur des monuments sous forme de graphites. Alors, ces graphites sont connus depuis très longtemps. Hirschfeld avait déjà fait un premier relevé, puis Curzon, en 1992, a fait un deuxième relevé. Et tout récemment, ces graphites sont portés sur différents monuments, mais la plus grande partie d'entre eux sont portés sur la porte dite de Xerxès, à l'entrée du site, lorsque vous montez les grands escaliers de l'ouest. Vous arrivez à la porte de Xerxès et vous avez ces animaux fantastiques. Et c'est en bas qu'il y a un très très grand nombre de signatures de voyageurs qui sont venus sur le site. Et en juin 1808, un voyageur anglais qui s'appelle Kerr Porter, dont j'aurai à parler, faisait la remarque suivante à propos de cette porte monumentale. Je cite, « On y découvre de nombreux noms de voyageurs gravés, voire peints, sur l'un des sphinx. Parmi eux, écrit-il, je découvris ceux de Lebrun, Mandeslo et Nibour. Le nom de ce dernier avait été écrit à la craie rouge. Il était aussi visible que le jour où il avait été écrit sur la pierre, comme si ça avait été écrit hier. » Et Carporter exprime des regrets que des voyageurs qui auraient dû, respecter le site, les abîmer ainsi de leurs mains. En 1892, Curzon, qui fait lui aussi un relevé, a une toute autre approche, beaucoup plus... je vais en parler. Il dit ceci. Une structure ruinée, comme les Persépolis, une structure ruinée sans aucun espoir, n'est pas rendue moins impressionnante, tout au contraire de mon point de vue, elle devient encore plus intéressante en raison des archives, records, qui y sont gravés, en majorité des propres mains de fameux voyageurs du passé, avec les noms, les études desquels, le visiteur perspicace de Persépolis est presque aussi familier qu'avec les titres de Xerxès. Puisque dans la porte de Xerxès, il y a une longue inscription de Xerxès qui se présente. Leurs fantômes semblent encore habiter la scène qu'ils ont révélée et éclairée par leurs écrits à des milliers de leurs compatriotes qui n'auraient probablement jamais eu la chance de poser eux-mêmes le pied sur le sol perse. C'est donc sans irritation aucune, poursuit-il, mais au contraire avec un grand intérêt que j'ai lu les noms. Et il en cite 28 au total au cours du 19e siècle, dont de très nombreux Britanniques. Le plus ancien, dit-il, date de 1704. Donc je disais qu'Hersfeld, sous forme de manuscrit, a fait également un relevé, et l'étude a été reprise plus récemment par un collègue britannique qui est conservateur au British Museum, qui a fait paraître un article dans la revue en ligne que nous avons sur le site Akemenet, qui s'appelle Arta, où vous pouvez d'ailleurs trouver les comptes rendus les plus récents des fouilles archéologiques qui ont été menées ou des prospections qui ont été menées, en particulier à Passargade, fouille de sauvetage, pas à Passargade, mais dans la vallée proche de Passargade. Donc, il a relevé 222 noms, dont 158 se trouvent sur la porte de Xerxès, dite aussi « porte de tous les pays », puisque c'est le nom donné par Xerxès à cette porte, et 64 autres sont disséminés sur les jambes des portes et dans les embrasures des fenêtres, en pierre donc, des divers palais. Et certaines signatures sont répétées plusieurs fois parce que plusieurs voyageurs sont venus à plusieurs reprises à Persépolis. Et certains d'entre eux trouvaient nécessaire à chaque fois de préciser qu'ils étaient venus à telle année à Persépolis. Bien. Alors, quelques exemples de ces signatures de ces personnages, on en est sans quelques-uns. Voilà un fameux journaliste que tout le monde connaît, Stanley, qui est envoyé par le New York Herald en 1970, qui d'ailleurs, c'est très bien fait, je veux dire. C'est bien gravé dans un carré qui lui est réservé, parce que beaucoup, au contraire, sont entremêlés les uns aux autres, chacun ne pouvant atteindre qu'un certain niveau en raison de leur taille ou d'un manque d'échelle. Et donc, évidemment, beaucoup de signatures ont été multipliées dans une surface qui est relativement limitée. Vous avez évidemment de très nombreux militaires diplomates britanniques. Vous reconnaissez ici, par exemple, Sir John Malcolm, dont j'ai déjà parlé, Envoy. Tous ces gens, tous ces Anglais qui viennent, ou Écossais, qui viennent de Persepolis au XIXe siècle, voyagent entre l'Inde et Ispahan. Ispahan, puis l'Europe. Vous avez aussi des hommes de science, vraiment, qui sont venus. Comme par exemple, vous avez ici deux signatures intéressantes. Alors ça, c'est Loftus, le fouilleur de Suse dont j'ai déjà parlé. Et vous avez ici le français Lotin de Laval, qui vit au XIXe siècle, entre 1810 et 1903, et qui est surtout connu pour avoir inventé un procédé pour prendre des moulages. Alors, je ne vais pas expliquer comment ça consiste, mais il a fait énormément de moulages aussi, enfin d'inscriptions, mais de monuments, de reliefs. Et ces moulages d'inscriptions ont été très très importants, d'inscriptions cuniformes qu'il a prises à Ninive ou ailleurs, ont été très importantes puisque ceux qui étudiaient le cuniforme en Europe avaient ainsi une reproduction extrêmement fidèle de ces inscriptions cuniformes. Et donc on peut rapprocher de Lotin de Laval une autre personne qui est venue à Persepolis et qui a laissé, je crois, un graphite, mais qui n'a pas, pour lequel je n'ai pas de photographie. C'est un dénommé, un Anglais ou un Écossais. Dans tous les Britanniques qui passent à Persepolis, qui viennent de l'Inde, il y a 80% d'Écossais. Hein. Un nommé Stanus, Stanus, qui vit de 1584 à 1850 et qui a été résident donc de la Compagnie des Indes, de l'East India Company, à Bushire, sur le golfe Persique, entre 1817 et 1823. Comme je l'ai déjà expliqué, de Bushire, on gagne facilement, on gagne relativement aisément Persepolis. Et il est le premier, il a fait des fouilles à Persepolis, il a même exposé à Persepolis des reliefs qu'il avait dégagés en faisant des fouilles, mais ils ont dû les remettre en terre, car les paysans du coin étaient persuadés que la conséquence de tout ça serait, ou avait été, je n'ai pas compris, une invasion de sauterelles. Et donc, il a dû les remettre en terre, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose pour la postérité. Et il est le premier à en faire des moulages sur place, en plâtre, qu'il avait deux planches, une sorte de cadre dans lequel il mettait du plâtre tout frais, qu'il plaquait sur les reliefs. Ensuite, on les enlevait et, une fois arrivé à Bushire, on refaisait un moulage en positif à partir du premier moulage, de la première empreinte en négatif. Et lorsqu'il quitte Bushire, en 1827, il emporte ses moulages avec lui en Inde. Il arrive en Inde au moment où le gouverneur général est un homme très très important, c'est le nommé Stuart Elphinstone, qui a lui aussi beaucoup voyagé, beaucoup écrit sur les régions de l'Est de l'Iran et de l'Afghanistan. Et Elphinstone doit démissionner de son gouvernorat général en 1827. Et quelques mois après, il a donné ses moulages au British Museum. Alors je sais que j'ai lu que ces moulages avaient été exposés en même temps que les reliefs de Persepolis donnés par Ouseley, dont j'ai parlé plus haut. Mais actuellement, je ne sais pas très bien où ils sont. Car les moulages qui sont actuellement au British Museum sont des moulages beaucoup plus récents. Alors ces moulages, je ne sais pas où ils sont. Tout ce que je vous dis là, je le tire d'un article de St. James Simpson paru dans cet ouvrage tout à fait intéressant. Je n'en sais pas plus. Mais enfin, on voit que... Alors c'est important tout ça parce qu'on voit très bien quels sont les véhicules de la transmission de la connaissance. Il y a effectivement les récits de voyageurs. Il y a parfois le dessin de voyageurs, mais aussi, et on va voir, il y a une autre véhicule, il y a aussi les moulages. Les moulages qui donnent donc une réplique exacte des reliefs et qui arrivent dans les musées européens en même temps que certains reliefs qui, eux, ont été découpés. Donc on découvre qu'on peut également mouler, faire des moulages, comme l'a fait Lotin de Laval, par ailleurs, et Stanus à Persépolis. Et puis il y a les photographes. Notre moyen, alors qu'il se développe au XIXe siècle, les premières photographies de Persépolis et des sites de la Perse antique datent de 1858. C'est d'un photographe italien qui s'appelle le colonel Luigi Pesce, qui fut attaché militaire italien en Iran entre 1848 et 1861. Et il fut, ma connaissance, le premier à prendre des photographies systématiques de tous les sites antiques de Perse. Donc, vous voyez, quand on parle des voyageurs, on doit ranger beaucoup de catégories sur le terme de voyageurs. Ces gens-là sont des voyageurs aussi, ou des gens qui amassent de la documentation avec une instrumentation qui est nouvelle, enfin relativement nouvelle quand même, la photographie. On a beaucoup, beaucoup de documentation qui provient à la fois des militaires, des diplomates, des voyageurs proprement dit, des dessinateurs qui ne sont pas les mêmes que les voyageurs. Les voyageurs sont accompagnés de dessinateurs, parfois ils sont d'ailleurs nommés, je vais en dire un mot tout à l'heure. Et donc, Sevregin, dont j'ai parlé, qui a passé la plus grande partie de sa vie à Téhéran et qui a également travaillé auprès de Hersfeld, auprès du collègue de Hersfeld, avec lequel Hersfeld a publié en 1910 un premier ouvrage sur les reliefs rupestres de l'Iran.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, Pierre Briand, titulaire de la chaire Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire d'Alexandre. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France. Réalisation, Anne de Pelchin. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours consacré au récit des voyageurs en Perse et dans le monde achéménide entre le XVIe et le XXe siècle. Et nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.